Bonjour à tous et bienvenue pour la chronique mensuelle d'Amnesty International. Ce mois-ci, je voudrais vous parler des élections, nous sommes en plein dedans. Alors tout d'abord, je vous rappelle, parce que c'est très important pour nous, que Amnesty International France est indépendante de tout gouvernement et de toute tendance politique. Donc nous n'appelons pas à voter pour un candidat ou un parti en particulier. C'est très important. Les engagements dont je vais vous parler maintenant sont soumis à tous les candidats aux élections législatives et les réponses feront l'objet d'une publication. C'était important comme préalable. Donc, effectivement, les élections législatives vont avoir lieu les 11 et 18 juin. Et à cette occasion, Amnesty va interpeller les candidats pour qu'ils s'engagent sur 10 défis pour protéger les droits humains. Ces défis portent sur des domaines clés de l'action politique, les respects des droits humains dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le droit d'asile, le commerce des armes et la responsabilité des entreprises. Autant de sujets qui nécessitent un engagement fort des candidats à la législature, car qui peut mieux que les députés influer sur la protection des droits et des libertés ? Alors après ce petit préambule, je vais d'abord vous lire un appel qui est signé de Camille Blanc, qui est la présidente d'Amnesty International France. Donc c'est un appel pour une politique respectueuse des droits humains. Les élections législatives sont l'occasion pour Amnesty International de rappeler l'exigence de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui engage la France à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Les candidats et candidates aux élections législatives doivent s'engager à mettre le respect des droits humains au cœur de leur action parlementaire. C'est ce qui doit les guider. C'est la foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes proclamés par les signataires de la Déclaration. Le Parlement a un rôle primordial à jouer dans la promotion et la protection des droits humains, dans le cadre de son activité d'élaboration des lois et de contrôle de l'action du gouvernement. Pourtant, des politiques restreignant les libertés publiques et affaiblissant l'égalité des droits pour tous sont prônées aujourd'hui au nom d'enjeux sécuritaires ou identitaires, et des législations ont été adoptées selon des procédures accélérées, empêchant un débat parlementaire démocratique. La France est confrontée à de graves difficultés, menaces terroristes, crise économique, crise de l'accueil des réfugiés. Il est donc plus que jamais essentiel de refuser les réponses et les discours démagogiques, simplistes, stigmatisants ou discriminatoires, porteurs de graves fractures et de tensions au sein de notre société. Si la protection des citoyens est un devoir qui s'impose aux élus de la nation, cet objectif ne peut être poursuivi en opposant sécurité et droits fondamentaux, en portant atteinte à la liberté d'expression et de manifestation, en sacrifiant dans la politique étrangère de la France le respect des droits humains sur l'autel des enjeux économiques et stratégiques, ou en repoussant les réfugiés. Il faut au contraire faire preuve de courage et d'ambition et réaffirmer que la primauté et le respect absolu des droits de la personne et de sa dignité ne sont pas négociables. Cette conviction requiert de la part des candidats et candidates aux élections législatives une détermination à la hauteur des enjeux et des hautes fonctions politiques auxquelles ils ou elles prétendent. C'est le sens de ces 10 engagements qu'Amnesty International France soumet aux candidats et candidates aux élections législatives. Celles et ceux qui seront élus auront la charge de contribuer activement à promouvoir, protéger et garantir les droits humains en France et dans le monde. Nous y veillerons. Donc maintenant, je vais vous présenter ces 10 points sur lesquels Amnesty International demande aux élus et aux candidats surtout de s'engager. Donc, tout d'abord, le premier point, respecter les droits humains dans la lutte antiterroriste. En effet, au nom de la lutte contre le terrorisme, des droits fondamentaux indérogeables ont été progressivement remis en cause en France, tels que le droit à la présomption d'innocence, le droit à un recours effectif et la garantie des réactions nécessaires et proportionnées. L'état d'urgence promulgué en novembre 2015 et renouvelé à 5 reprises a donné lieu à de graves abus documenté par Amnesty International, violation du droit à un procès équitable et à un recours effectif, mise en œuvre discriminatoire de l'état d'urgence à l'encontre des personnes en raison de leurs pratiques religieuses, réelles ou supposées. Donc, toute mesure visant à répondre à l'objectif légitime de sécurité doit être nécessaire et proportionnelle à l'objectif visé et mise en œuvre de manière non discriminatoire. Le deuxième point concerne le respect des lois votées en France en juillet et novembre 2015 ont légalisé des pratiques de surveillance indiscriminées sans réel contrôle judiciaire ni voie de recours. Or, par définition, toute surveillance indiscriminée et de masse est disproportionnée et donc illégale au regard du droit international. En outre, le droit au chiffrement des communications, soit la capacité de protéger ses données personnelles en ligne, tend à être remise en cause. Donc, toute mesure visant à fragiliser le chiffrement affaiblirait le droit à la vie privée, tel que défini par la Convention européenne des droits de l'homme. Le troisième point concerne le fait de garantir le droit de réunion. Ces dernières années, des restrictions à la liberté de réunion et de manifestation pacifique ont été constatées en France sans qu'elles ne paraissent nécessaires ni proportionnées. L'interdiction d'une manifestation doit rester une exception qui ne peut être justifiée que par une menace de trouble grave à l'ordre public auquel aucun dispositif policier ne peut faire face. Le quatrième point concerne la protection des réfugiés. Le monde, vous le savez, traverse sa plus grande crise des réfugiés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec 21,3 millions de réfugiés en 2016. 86% d'entre eux vivent dans des pays en développement ou à revenus intermédiaires. La France s'est engagée à accueillir près de 12 000 personnes d'ici la fin de l'année 2017. Mais notre pays doit être davantage solidaire avec les pays qui hébergent le plus grand nombre de réfugiés et accueillir sur son sol davantage de réfugiés vulnérables. Les autorités doivent également garantir un accès effectif à la procédure d'asile afin que les personnes en attente de l'enregistrement de leurs demandes ne soient plus obligées de vivre dans des conditions indignes. Le point suivant, c'est le respect des droits des populations dans les bidonvilles. Je ne peux même pas imaginer qu'on parle encore et à nouveau, surtout, de bidonvilles en France en 2017. Or, entre 15 000 et 20 000 personnes vivent dans des campements informels ou bidonvilles en France. Chaque famille est expulsée en moyenne une fois par an sans se voir proposer, pour la majorité d'entre elles, de solutions d'hébergement ou de relogement. Face à cette situation, la France a été rappelée à l'ordre d'ailleurs par le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies et le Conseil de l'Europe en 2015 et en 2016. La France doit résorber les bidonvilles en veillant au respect des droits des personnes. Le point suivant concerne la responsabilisation des entreprises. En 2011, la France était le premier pays européen pour l'emploi dans les filiales à l'étranger, avec 5,3 millions de salariés, devant l'Allemagne et le Royaume-Uni. Lorsque les filiales ou sous-traitants d'entreprises françaises à l'étranger commettent des violations des droits humains, la responsabilité de ces dernières devrait être établie. La France est particulièrement concernée par cet enjeu car en 2010, 2600 groupes français contrôlaient 30 500 filiales à l'étranger. Il est donc nécessaire d'introduire de nouvelles mesures spécifiques dans le droit français pour renforcer la responsabilité des sociétés mères, permettre aux personnes dont les droits sont violés par leurs filiales ou leurs sous-traitants d'obtenir réparation, et prévoir un mécanisme de renversement de charge de la preuve pour éviter aux victimes d'avoir à prouver le lien entre le dommage et les activités de la société mère. Aujourd'hui, en effet, quand les gens sentent qu'une société a pollué, par exemple, leur environnement ou les a spoliés à l'étranger, c'est à elles de faire la preuve de ce problème. Et souvent, il s'agit de populations qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas accès à énormément d'avocats ou de moyens légaux, et donc qui sont tout simplement les pour compte. Le huitième point concerne le contrôle du commerce des armes. L'Arabie Saoudite aujourd'hui est le premier client de la France et l'Égypte le troisième sur la période de 2006 à 2015, alors qu'il existe un vrai risque que ces deux pays utilisent des équipements militaires et de sécurité intérieure pour des violations graves des droits humains et du droit international humanitaire. Après avoir été l'un des pays leaders dans les négociations en vue de l'adoption du traité sur le commerce des armes, la France se doit maintenant d'être exemplaire en la matière. Elle est le quatrième plus important exportateur d'armes classiques au monde, et son volume de commandes, 16,9 milliards d'euros en 2015, a connu une hausse considérable depuis 2 ans. Il est donc essentiel que les parlementaires veillent à ce que la France renforce son cadre juridique pour combler des failles pouvant être propices au trafic d'armes, à des exportations comportant un risque de détournement des armes, voire des exportations non autorisées, et que la France révise sa politique d'exportation afin qu'à aucun moment les exportations françaises ne puissent contribuer à commettre ou faciliter des violations graves des droits humains et du droit international humanitaire. Il ne s'agit pas de la part d'Amnesty de dire à la France d'arrêter de fabriquer, de produire et de vendre des armes, il s'agit juste de contrôler ce commerce pour que ces armes ne soient pas utilisées à des fins allant à l'encontre des respects des droits humains. Ensuite, le 9e point consiste à agir pour assurer la protection des civils dans les conflits. Depuis plusieurs années, Amnesty International demande au Conseil de sécurité de renoncer sans réserve au droit de veto en cas de génocide, de crime contre l'humanité ou de crime de guerre. On a eu un exemple dernièrement avec la Syrie et les bombardements avec des armes chimiques. En 2013, la France a proposé que les membres permanents du Conseil de sécurité s'engagent volontairement et collectivement à ne pas avoir recours à leur droit de veto en cas d'atrocité de masse. À ce jour, cette initiative a reçu le soutien d'une centaine d'États, mais d'aucun des 4 autres membres permanents du Conseil de sécurité. En tant que membre permanent de ce Conseil de sécurité des Nations Unies, la France doit jouer un rôle important pour assurer le respect du droit international humanitaire et protéger les populations civiles dans les conflits. Et enfin, le dernier point, il s'agit de protéger les défenseurs des droits humains. Ces défenseurs font face à une répression croissante et multiforme dans de très nombreux pays et régions du monde en raison de leur engagement pacifique pour les droits humains. La France a contribué activement à la reconnaissance de leur rôle fondamental. Face à une remise en cause progressive dans le monde de leur légitimité, les soutenir doit devenir une constante de la politique étrangère de la France et non une variable d'ajustement conditionné à ses intérêts économiques, commerciaux ou stratégiques. Donc, vous le voyez, ces 10 points, comme je vous le disais au départ, sont des points qui sont tout à fait apolitiques. Il ne s'agit pas pour nous de nous prononcer pour tel ou tel candidat, juste de les interpeller et de leur demander de s'engager. Donc, si vous allez sur le site d'Amnesty International France, vous pourrez trouver un document où vous retrouvez ces 10 points sous forme de lettres que vous pouvez envoyer à votre élu ou vous formez un collectif dans votre commune, par exemple. Vous pouvez l'envoyer à vos candidats et leur demander de répondre, de s'engager sur ces points. Et ensuite, vous revenez vers votre groupe Amnesty pour donner les réponses que vous avez pu recevoir. Voilà, je vous remercie. C'est tout pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous dans un mois. Au revoir.